Merci de venir à cette table ronde des Aurores d'Estérène sur le thème impliquer les personnages dans un scénario de jeu de rôle de l'écriture du livre 3 d'Arg à la séance de jeu. Donc nous allons nous présenter en fait. Donc, je suis Dominique Lejeune, traductrice de Menaçant de Tuate. Et également, là, nous sommes en train de traduire avec Clovis Frémont Ghost Stories, un nouveau supplément qui va sortir dans quelques temps. Et je suis également lectrice de la gamme version française et version anglaise. Donc, je vous présente Benjamin et Chris, donc je vous laisse vous présenter.
Moi, c'est Benjamin, j'ai été playtester sur le jeu, j'ai aussi écrit le scénario de la Confrérie de l'Ombre. Et j'ai aussi réalisé le DVD sur le reportage du concert de Dearg qui a eu à Lyon le 31 octobre, si mes souvenirs sont bons. Oui, je crois que c'est ça, le 31 octobre.
Bonjour, moi c'est Christophe. Donc, j'ai connu les Aurores d'Estérène dans un salon de jeux vidéo à Paris, c'était en 2009 je crois.
Ouais.
C'est là qu'on s'est connus. Enfin, un an avant, j'étais dans un autre salon aussi. C'est là que j'ai connu Nel et Pierre, si je me rappelle bien. C'était un stand où il y avait personne en fait. Ils étaient dans un coin du salon. Et moi, en passant devant, j'ai vu qu'ils demandaient des illustrateurs et tout. Donc, je suis allé voir. Et de là, j'ai commencé à illustrer pour eux. Et voilà, quoi. Après, ça s'est suivi de salon en salon. Je continue à dessiner pour eux.
Donc là, une nouveauté donc, des Aurores d'Estérène, c'est le livre 3 d'Arg. Donc Benjamin, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est ce supplément d'Arg, qui est la campagne en fait des Aurores d'Estérène, donc qui est en 4 épisodes. Vas-y, je te laisse.
Donc comme tu viens de le dire, le livre 3 d'Arg, en fait, c'est la campagne officielle, la première grosse campagne du jeu. Donc on l'a un petit peu reproché, c'est vrai qu'on met notre temps, on prend notre temps pour sortir les livres, mais la campagne est là, et il y a le tome 1 et le tome 2 qui sont sortis, et il y a le tome 3 et le tome 4 qui sont en cours. Donc le tome 3 devrait arriver, on va dire juin-juillet, mais on préfère pas trop dire de date, et la fin de la campagne, à la fin de l'année, voilà, en théorie. On a décidé de le sortir en 4 tomes, à la base on devait le sortir en un seul gros livre, et on a décidé de le sortir en 4 tomes pour avoir des sorties régulières pour que les joueurs aient régulièrement du contenu pour pouvoir jouer, parce que le plus important pour un jeu de rôle, on est d'accord, il faut qu'il soit joué, c'est vraiment le plus important. Rapidement, la campagne, moi je pense qu'on va le développer plus tard, mais elle a une particularité qui sont les arcs narratifs, et on fait des focus sur les personnages, et on retrace leur background à travers un arc narratif, donc comme le cinéma. La campagne a vraiment été créée comme une série télé, donc on a les arcs des personnages, on a des personnages qui sont mis en avant, une relation, par exemple, on a Eogan et Céliane qui sont les deux personnages principaux du tome 1 qui ont une relation amoureuse et qui est développée à travers l'album de musique aussi et le tome 1. Tome 2, on est basé sur d'autres personnages, le tome 3 sur de nouveaux personnages et le tome 4. C'est un peu la conclusion de où est-ce qu'on arrive avec tous ces personnages. Voilà, donc Dearg, c'est ça. C'est une campagne sur 4 tomes qui va amener les personnages à vivre pas mal de mésaventures. Pas d'aventures, mais vraiment de mésaventures dans le Val d'Estérène.
Tu as bien expliqué qu'effectivement, Dearg, la campagne, donc c'était vraiment axé sur l'implication des personnages. Et par les focus, par les arcs narratifs, tu peux un peu développer ce qu'est un arc narratif, un focus, et ce qui fait vraiment l'originalité du concept des arcs.
Déjà, un arc narratif, au-delà du jeu de rôle, un arc narratif, c'est on prend un personnage dans un film, il commence, il est à un état, et il finit à un état, et l'arc narratif, c'est tout ce qui va se passer jusqu'à la fin. Donc, les contes, on est la meilleure le meilleur exemple qu'il y a, le chaperon rouge apprend qu'il faut vraiment se méfier du loup, etc. Donc ça, c'est un arc narratif. Nous, on a voulu faire dans les livres de jeux de rôle en particulier dans des arts, on a voulu qu'un personnage qui crée son perso, son avatar de jeu, et ils disent tiens, de quoi j'ai envie de parler. Et donc on a proposé 8 arcs, bon, évidemment il y a possibilité d'en créer d'autres, qui est l'amour, l'ambition, la culpabilité, le regret, l'éthique, l'adoption et les origines. Donc on a proposé ces 8 arcs. Et on va prendre un exemple, on va prendre Hogan, qui est un des prétirés, qui a de base l'amour, et qui est le volume 1 de notre campagne. Donc en fait, il a choisi l'amour, et on va commencer par raconter tout son passé, jusqu'au moment où on est en train de faire la campagne, donc tout son background, ce qu'on appelle le background dans le milieu du jeu de rôle, c'est ou la backstory dans le milieu du cinéma. On va créer. On va faire une partie entière où un seul joueur va jouer le perso de sa campagne et où tous les autres joueurs vont jouer des personnages non-joueurs, donc des PNJ, qui vont impliquer et proposer des challenges à ce personnage, évidemment liés à son arc. Donc là, par exemple, pour Eogan, ça va être l'arc de l'amour. Et sans spoiler, sans spoiler la campagne, ça commence sur lui qui part faire son service d'host, dans un assez éloigné, chez son oncle, et qui va partir avec une personne qui va devenir son meilleur ami, et il s'avère que son meilleur ami et lui vont tomber amoureux de la même personne, et cette jeune femme qui est Céliane, complètement perdue. Vous connaissez les triangles amoureux, c'est ce qu'il y a de plus entre guillemets commun quand on parle d'amour, hein. Si c'est deux personnes qui s'aiment et qu'il n'y a rien au milieu, c'est assez vite réglé. Non, là on a ce triangle amoureux qui est assez complexe, et évidemment il y a énormément d'enjeux politiques qui vont s'en mêler, et le résultat dépend évidemment du joueur, mais voilà, ça c'est par exemple l'arc de l'amour, comment on réagit, comment on avance, et surtout l'amour en jeu de rôle, comment on peut jouer, comment on peut interpréter. Et les PNJ vont être là vraiment pour proposer des nouveaux challenges, comment on réagit quand Maël, donc le meilleur ami d'Eogan, va se retrouver avec Céliane dans une situation de fleurs. Donc ça c'est un peu le côté romantique du jeu, et dans les autres arcs on va avoir le côté un peu plus gothique, un peu plus horrifique du jeu, mais je crois que là pour l'instant j'ai répondu à la question en m'égarant un petit peu.
Donc donc tu as parlé des arcs, bon, par rapport aux personnages.
J'ai moins d'infos que toi.
Donc les personnages, tu as parlé des prétirés, donc sur ces beaux personnages qu'on peut voir dans le livre Univers.
Alors tout à fait, en fait, on a fait 12 prétirés, 13 sur internet, donc deux barres qui sont des sœurs jumelles. On a créé 6 prétirés pour le prologue. Donc le prologue, c'est, comme son nom l'indique, c'est le prologue de la campagne. Et c'est aussi un livre qui nous a permis de... On l'a mis à télécharger gratuitement sur internet pour que les jeunes joueurs puissent appréhender l'univers du jeu de rôle. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais fait de jeu de rôle peut prendre ce livre, appréhender un univers, appréhender un système de jeu, et après il y a 3 scénarios. C'est des scénarios qui ont différentes difficultés de jeu, donc il y en a un qui est facile d'accès, un peu plus complexe, encore un peu plus complexe, et évidemment pour accompagner ces 3 scénarios, on a proposé 6 prétirés. Ces 6 prétirés donc viennent du Val d'à côté, du Val de Déargue, qui est la campagne officielle du jeu, et dans le livre de l'univers, on a proposé 6 prétirés qui sont les adolescents, les jeunes adultes, on va dire, de l'univers de Déargue, du Val de Déargue, qui vont subir ou vivre cette campagne, donc la campagne de Déargue. Et donc pour les arcs narratifs, on est parti de ces 6 prétirés, et on leur a proposé des arcs narratifs liés à ces prétirés, parce qu'on considère que les prétirés ne doivent pas juste être un truc vite fait à balancer au joueur parce qu'il est en retard ou parce qu'il n'a pas créé son personnage. On considère que les prétirés sont des vrais avatars de notre univers et qu'on doit, raconter des histoires avec eux. On va pas. On va prendre un extrême comme exemple, mais on va sûrement pas faire ça. Mais un personnage avec un arc, imaginez que dans un prochain supplément, un personnage meurt, on considère qu'il est mort, que c'est fini. Et donc ils doivent avancer. Parce qu'on joue un personnage qui deviendrait, entre guillemets, méchant, amoureux, comme Eogan. Eogan tombe amoureux, hein, clairement. Et on considère que ça y est, dans notre timeline, il est amoureux et on a fait avancer les personnages. Donc les prétirés, on n'avait pas envie qu'ils soient dans cette phase de stade, on avait envie de les faire avancer. Et quoi de mieux qu'une campagne pour les faire avancer, et quoi de mieux que quand on écrit une campagne d'impliquer les prétirés qu'on a fait. Voilà.
Donc la campagne retrace vraiment l'introspection en fait, des personnages. Donc tu l'as expliqué, donc en fait, si je m'ai compris, c'est sous forme de flashback.
Tout à fait.
Par rapport à leur passé, etc. Et donc, il est facile d'impliquer en fait les personnages hein, dans leur histoire, dans leur passé, etc. Mais comment impliquer les joueurs? Parce que tout à l'heure, tu as dit effectivement, il y a un joueur en fait qui vivra l'histoire de son arc narratif. Et pour les autres joueurs, donc les incarnements des PNJ, comment ça se passe en fait?
Alors, il y a clairement une méthode proposée dans le livre, parce que c'est un peu singulier. Mais déjà, je me permets juste une mini discrétion. On est dans une période du jeu de rôle, on en parlait avec deux autres auteurs tout à l'heure. On est dans une période où le jeu de rôle commence clairement à se détacher du wargame. Ça fait du bien. C'est fini la période. Ben, ça commence à se finir la période où, quand on crée nos personnages, il faut que tout le monde soit égalité, au pied, tout le monde pareil, etc. Non, la beauté d'une histoire, c'est souvent quand il y a un mentor, un élève, quand il y a, je pense notamment par exemple à Seven, qui a un mentor et un élève, ou des films où c'est par équipe, on a besoin d'avoir du déséquilibre, parce que le déséquilibre crée l'histoire, et du conflit surtout. Et donc on a, dans cette démarche-là, dans ce scénario d'Esteren, dans ces focus, on a plusieurs approches. Donc la première, c'est tout simple, c'est il y a le personnage, le joueur dont c'est le focus, qui va jouer son personnage, donc plus jeune, donc avec moins de compétences, moins doué dans certaines compétences, qui va jouer son personnage, et les autres, on va leur donner des feuilles de personnage, on va leur donner des PNJ qui vont jouer. Donc par exemple, on a Eliane, on va donner le maître d'armes à un personnage, on va donner Céliane, donc son amoureuse à quelqu'un, Maëlle, personne qui va devenir son meilleur ami, potentiellement, c'est possible que ça ne devienne pas, mais globalement tout est fait pour, les événements sont là pour, et voilà, donc on a le maître d'armes, il va jouer son père, il va avoir des autres enfants du village, il va avoir le démortel, donc le druide du village, voilà, il y a tout un tas de PNJ qui vont l'habiter, et on va les donner aux joueurs, ils vont lire leurs fiches, et on va faire des scènes comme un jeu de rôle classique. Maintenant, il y a une... Moi, personnellement, et ça, c'est proposé dans des armes. Vous avez une autre option qui est, à mes yeux, peut-être des personnes un peu plus chevronnées. Vous pouvez mettre de côté le joueur, donc ça va être le focus, pendant quelques poignées de minutes. Et les autres joueurs, vous leur racontez le focus qui va jouer ce personnage. Et vous mettez les autres joueurs dans la confidence. Vous leur dites, voilà, il va se passer ces trois scènes-là. Alors, la première scène, il va s'engueuler avec son père, et son père va s'énerver, il va lui coller des tourniols. La deuxième scène, il va rencontrer pour la première fois Céliane, etc., etc. Et les autres joueurs donc, ont toutes les cartes en main, un peu moins que vous, mais quand même quelques cartes en main, et vont être des vrais soutiens dans la mise en scène de cet arc-là. Alors moi, pour pouvoir tester évidemment ces scénarios, il y a eu des moments fabuleux où les autres joueurs rajoutent encore plus de challenge, créent des rebondissements incroyables. Une mise à l'épreuve pour Hogan. Donc on a un personnage qui s'appelle Finn, donc qui est l'éthique, qui est clairement cul entre deux chaises. Hein. Il se retrouve entre les mythes sceptiques et l'avancée de la science. Il a étudié la science parce que tout simplement, les traditions font qu'on n'a pas sauvé sa petite sœur et qu'elle est morte à 8 ans de maladie, donc c'est pas la joie. Et il a décidé de devenir un médecin et donc de suivre la science. Et il se retrouve donc dans des situations de conflit pendant tout le scénario, toutes les scènes. Et quand mes joueurs, clairement, proposaient des nouvelles scènes parce qu'ils avaient toutes les cartes en main, ils savaient que, par exemple, il fallait pas tuer cette personne, ils savaient que lui, ça allait devenir un protagoniste adverse, parce qu'un méchant, je trouve ça caricatural. Et voilà, on a ces situations-là. Et donc, les joueurs sont des metteurs en scène au même titre. Et ça, c'est un vrai bol d'air frais quand on fait une campagne. Parce que je pense que le plus grand intérêt pour les arcs narratifs, c'est une campagne, parce que si vous faites juste ce qu'on appelle un one shot, une séance, je suis pas sûr que ce soit pertinent de juste faire un focus, parce que le personnage, le but c'est de créer son background, donc si on se retrouve sans développement, moins d'intérêt.
Et justement, pour le meneur de jeu, pour la mise en œuvre, différents arcs narratifs, comment ça se passe? Parce que c'est une succession en fait, d'arcs narratifs. Donc pour la mise en pratique, pour les joueurs hein, qui vont incarner d'un arc narratif sur l'autre, différents personnages.
Oui, oui, j'ai écouté.
Donc, comment ça se passe pour le meneur de jeu? Est-ce que c'est difficile de mettre en œuvre?
C'est compliqué.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais vous donner juste mon exemple personnel, qui sera sûrement dans le tome 4 de DA, donc qui arrivera à la fin de l'année. C'est comment moi j'ai pris les scénarios et je les ai adaptés à ma table. Là, concrètement, comment ils sont posés, c'est des scénarios de prologue, de flashback que vous pouvez avoir, vous pouvez intégrer à votre partie quand vous voulez. À un moment, vous dites, bah voilà, cette séance-là, ça va être le flashback d'Eogan, et on va jouer le passé d'Eogan. Maintenant, comme tous les maîtres de jeu de cette planète, je pense, on a envie de mettre nos mains dedans et de modifier un peu et puis de le faire à notre sauce pour l'adapter à notre table. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ma table? On le sait, évidemment, quand on a le plan d'ensemble de l'ensemble de des arcs, j'ai pris par exemple la scène 1 de l'arc qui va sortir dans tome 3, qui est un personnage qui s'appelle Adelian, qui est le druide, qui est la seule personne qui est autorisée à sortir du village quand ils sont avant le 16 ans. Il va se passer qu'elle va sortir avec. Elle a à peu près 8 ou 9 ans. Elle va aller hors de la forêt parce que les autres lui mettent la pression parce qu'ils veulent voir la forêt, machin, les esprits. Et donc, une fois sorti, il va se passer un petit accident et un de leurs amis va mourir. Donc, ils sont 5 et rentrent à 4. Ça fait un peu désordre. Et elle va avoir donc l'arc de la culpabilité. Elle va culpabiliser donc toute sa vie, ben, jusqu'à le moment où les personnages vont être joués. Donc, elle va jouer l'arc de la culpabilité. Et moi, cette scène-là, juste cette scène-là, ça a été la scène d'intro de toute ma campagne. J'ai mis en tout premier. On a juste fait ça. On a créé nos personnages. On a fait cette scène-là. Et là, d'un seul coup, tous mes joueurs étaient liés à un traumatisme de l'enfance. Et ils étaient tous liés avec leur meilleur ami, avec, qui était mort quand ils étaient jeunes. Évidemment, on a fait une scène d'avant où ils rigolent tous ensemble, etc. Et la scène d'après, on est arrivé dans le présent et on a joué la campagne quand c'était des adultes, etc. Et ils avaient tous ce morceau-là. Dans le scénario d'après, on a introduit des nouveaux enjeux, etc. Puis, à un moment dramaturgique, il y a un cliffhanger, clairement, j'ai mis un cliffhanger, et ils sont tous là, oh, vivement la séance d'après, mais j'ai dit, maintenant, la séance d'après, on va partir dans le passé, on va faire un arc, donc on va faire un focus sur un personnage. Donc, moi, je les utilise comme ça, c'est-à-dire, c'est des morceaux dans le passé qui vont permettre d'avoir de nouveaux éléments sur la situation actuelle. Donc, par exemple, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a le cliffhanger, au bout de deux scénarios, il y a un cliffhanger entre... Maël, qui est le meilleur ami d'Eogan, et Eogan, qui est le personnage joueur qui a l'arc de l'amour, et Célia, donc son amoureuse, et une situation de cliffhanger où, en gros, ils se trouvent dans une situation en danger avec des mini-enjeux, un peu de stress, et qu'est-ce qui s'est passé? On a fait l'arc narratif après, et là, d'un seul coup, il y a tout qui s'est révélé, et l'enjeu qu'ils étaient en train de jouer dans le présent, qu'ils avaient tous en tête, d'un seul coup, ben, ils ont dit, ah ouais, mais alors ça veut dire que si je fais ça, il se passe ça encore en plus. Et on rajoute des enjeux. Ce qui fait que quand on revient dans le présent, les enjeux qui étaient déjà en cliffhanger prennent un gros boom. Et donc, moi, j'utilise des arcs comme ça. Donc ça, c'est mon adaptation et c'est tout à fait possible de le faire. On dit bonjour à Greg, qui est un petit peu en retard.
On peut pas peine vous présenter dans les de toute la gamme,
ça va?
Bienvenue.
Merci, excusez-moi, c'est assez l'enfer en ce moment.
C'est le challenge. On va dire qu'il y avait du monde sur la route.
Hein. En plus de ça.
Donc Greg, qui est l'auteur principal et le coordinateur de la gamme d'Esteren et qui est le scénariste de Dearg dont on parle depuis tout à l'heure. Tu vois,
exact. Vous en êtes où là?
À la fin.
Déjà?
Non, on était en train d'expliquer comment adapter les arcs dans une campagne.
La mise en œuvre pour le MJ.
Donc voilà. Je propose qu'on passe à la question d'après pour introduire en plus.
Ouais. Je sais pas, est-ce que tu as des choses à rajouter donc, par rapport à la mise en œuvre pour le meneur de jeu? Parce que Benjamin a donné son expérience en fait, de meneur de jeu sur les arcs, à savoir. Pour vraiment mettre en œuvre tous ces différents arcs narratifs de la campagne.
Allons-y. Merci. Bon, alors effectivement, la question de la mise en œuvre est très importante puisque c'est au travers de ces livres qu'on a vraiment voulu vous présenter des nouveaux outils pour pour mettre en scène vos personnages. Et c'est vrai que ça demande un certain travail préparatoire pour que les joueurs et le meneur puissent ensemble créer le terreau pour vivre une grande aventure. Alors, je vais peut-être revenir du coup sur les choses que vous avez un peu dit, mais qui sont pour moi vraiment la base de notre travail là-dessus. Alors, c'est vrai que bon, je suis l'auteur principal de ce système, mais notamment Valentin, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est l'éditeur, on a beaucoup travaillé ensemble, et aussi avec tous les joueurs qui ont participé au playtest. De ces playtests sont issus de nombreux chapitres du livre, donc qui expliquent comment adapter les arcs, comment les intégrer dans une partie, etc. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que... bon, moi, je suis un rôliste depuis bien longtemps, et c'est vrai que quand on... DARC, c'est un projet aussi qui est en gestation depuis longtemps, puisque certains des scénarios là, qui vont être publiés dans les prochains mois ont été testés avant même la sortie du livre 1 en 2008-2009. C'est vrai que les gens ils se rendent pas bien compte, mais ça met énormément de temps, parce que déjà, on fait pas que ça, mais c'est vrai qu'en plus de ça, il y a une gestation comme d'une histoire, hein, voilà. Et c'est vrai qu'au moment de la mettre vraiment sur papier, de la formaliser, il y a eu ce paradoxe qui est, moi, ma proposition par rapport à ce paradoxe, qui est que une campagne de jeu de rôle, c'est la même pour tous les groupes, puisque fatalement, le meneur, il va prendre son livre, et le meneur d'à côté, il aura exactement le même contenu. Pourtant, et ça, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, mais l'intérêt d'une campagne, c'est aussi comment est-ce que chacun va la vivre, et les campagnes les plus intenses, c'est aussi les histoires des joueurs, pas forcément l'histoire du meneur. C'est-à-dire, c'est l'histoire qui va être apportée par les joueurs dans le fameux background, le fameux l'historique, ce que le joueur veut faire. Alors, de fil en aiguille, c'est vrai qu'on s'est dit, bon, alors c'est pas évident, parce que moi, si vous voulez, enfin, voilà... Je fais ma campagne avec mes potes, tout ça est très bien, mais de là à passer plusieurs années à l'écrire, je pense que les meneurs, à la limite, ils ont plus besoin de pistes, d'aventures, d'outils. Alors il fallait essayer de dépasser ça. Bon, alors c'est vrai que ça n'a pas été évident, et ça implique des contraintes, mais aussi des outils, c'est ce dont vous parliez là, et notamment comment les adapter, puisque effectivement... comment résoudre ce paradoxe alors même que nous on voudrait vraiment que les personnes s'approprient la campagne. Le système des arcs narratifs, c'est vrai que c'est d'estimer que ça fait partie un petit peu des règles du jeu, des règles de narration. C'est-à-dire que dans un jeu de rôle, on est souvent habitué à suivre certaines règles, hein, parce que c'est comme ça. Voilà, il y a des règles de combat, il y a des règles pour la santé mentale. Je veux dire, personne va venir argumenter, oui, mais c'est trop contraignant, les règles de combat, moi je préfère jouer ça comme ça en improvisation, etc. Non, c'est vrai que c'est traditionnellement, il y a des règles de combat, et puis d'ailleurs dans certains jeux, 13. Voilà. Et en fait, je pense que là, c'est vrai que l'intervention du système vient, par la force des choses, à un moment donné, donner une direction. C'est-à-dire que pour aider le meneur et les joueurs, on va leur dire, voilà, pour que vos personnages y soient intégrés dans cette campagne, il y a un certain nombre de thèmes. La règle du jeu, ça va être que chacun d'entre vous, vous allez choisir un de ces thèmes. Parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner. Je veux dire, il ne faut pas se leurrer. À un moment donné, soit c'est une campagne assez linéaire, ou c'est le classique, hein. Il y a l'aubergiste qui vient vous recruter, ou il y a le roi qui vous demande, mais c'est très bien, c'est des ressorts scénaristiques, mais c'est pas l'histoire du personnage, c'est l'histoire de l'histoire qui attrape des personnages, quels qu'ils soient. Mais c'est vrai qu'en même temps, c'est assez pratique, parce que du coup, le roi qui recrute tel groupe ou tel groupe, à la limite, on s'en fout un peu, hein. Il recrute, quoi. Alors, on va avoir des histoires un petit peu à côté. Moi, si vous voulez, une petite anecdote là-dessus, hein, parce que c'est vrai que je pense que tous les meneurs connaissent ça, c'est les apartés avec les joueurs. Il y a toujours un joueur dans le groupe qui va absolument faire ses apartés avec le meneur. Alors le meneur, bon, il lui dit, écoute, on va pas rester trois quarts d'heure dans la cuisine, parce que les autres, ils s'emmerdent, commencent à entendre les gars allumer la console, ou je sais pas trop quoi. Enfin, forcément, à un moment donné...
Ça sent le vécu, hein.
Ouais, évidemment. Évidemment. Mais pourquoi le joueur, il veut faire ça? Parce que lui, c'est cassé la tête à écrire un historique. voilà, donc moi, mon perso, il a fait ci, il a fait ça, etc. Il est en lien avec tel personnage, ce qui n'a pas forcément à voir avec l'histoire du roi qui a recruté. En fait, il s'en fout un peu. Et ses potes aussi, ils s'en foutent un petit peu. Je veux dire, le mythe du groupe de personnages dans le jeu de rôle, c'est quand même super artificiel. Je veux dire, enfin, ça arrive de, quand on part en vacances, on part en groupe. Il y a des commandos, c'est certains types de scénarios. Mais après, le groupe de jeu de rôle, ça peut rapidement devenir très artificiel. Et donc, forcément, il y a des joueurs, ils ont envie de pousser l'individualité de leur personnage au travers de ces apartés. Et c'est vrai que le système des arcs narratifs, c'est rapidement... En fait, l'arc narratif, c'est quoi? C'est l'histoire du personnage. Et les focus, les scénarios spécifiques liés aux arcs narratifs, c'est les apartés avec le meneur. Sauf que là, on va les structurer pour que ces apartés, ça devienne des parties à part entière. Et que chaque joueur s'amuse au maximum dans ses parties. Et typiquement, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a un joueur, il va jouer son histoire avec son personnage. Là, et c'est vrai que tous les autres joueurs, ils vont pas jouer leur personnage. Ils vont aider le meneur, ils vont jouer des PNJ, des amis, des alliés. Et ils vont tous faire en sorte que ce joueur-là, il soit mis en valeur au travers de cette histoire-là qui lui est consacrée. Alors qu'il va durer une séance de jeu, qui va durer quelques heures, ou qui va durer parfois... plusieurs séances de jeu, c'est vrai qu'on a pas mal de retours là-dessus, les personnes, les meneurs font à leur sauce. Bon voilà, donc ça, je voulais juste c'est quelques mots sur ce principe-là, et c'est vrai qu'après, il ne faut pas se leurrer, je veux dire, les actes narratifs, ça a été beaucoup plus testé, là, c'est en train de sortir avec les retards qu'on connaît, parce que c'est aussi beaucoup de travail, et après, sans doute que ça vise à s'améliorer, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est face à des joueurs qui nous disent, ah les gars, c'est un peu bizarre votre truc, nous-mêmes, quand on a joué au début, on était là. C'est vrai qu'on avait retrouvé un peu la fraîcheur du jeu de rôle. On ne sait pas trop quoi faire. Quand on regarde son pote, mais on dit je dois dire quoi, etc. Non. Quand on s'assoit autour d'une table de jeu de rôle, on arrive, on sait, on sort la feuille de perso, ça déroule quoi. Là, on dit oui, donc tu vas faire un figurant, après tu auras un second rôle. C'est quoi, je dois dire quoi, qu'est-ce que je dois faire? Donc il y a un côté un peu. C'est vrai que moi, enfin, après, issu de ma pratique forcément, mais on s'éclate comme au premier jour. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte de fraîcheur. Où certains joueurs prennent un plaisir mais monstrueux à soit être le meilleur pote de leur gars, soit un gars qui va les trahir ou leur ennemi. Alors, quand on leur dit bon, toi tu vas jouer donc ton ennemi juré, donc vas-y, tu mets le paquet. Alors il y en a, ils mettent le paquet forcément, ils adorent ça et c'est assez génial. Après, sincèrement, le plus grand retour qu'on a eu, c'est non, mais moi, les gars, vous êtes gentils avec votre affaire, mais ne pas jouer mon perso, ça m'intéresse pas. Je veux dire, Alors, c'est pour ça que d'ailleurs, ensuite, à ce qu'il y a eu dans des playtests, on nous a dit, hein, mais ça va pas être géant. Donc, du coup, on a dit, ouais, vous gagnez quand même des points d'expérience pour votre propre perso. Alors, ça a été, ah, bon. je joue pas pour rien. Après, c'est pas suffisant pour ceux qui veulent vraiment que jouer leur perso. Bon. Voilà, il n'y a pas de mystère, voilà, on ne peut pas faire comme si. Alors c'est vrai qu'il y a un travail d'adaptation, je pense que Ben a dû parler de la façon comment il a fait, de découper les focus, de mettre que des petits morceaux, et de ne pas y aller dans le vif, genre on va jouer 3 sessions d'affilée, on va reprendre de ta naissance jusqu'à maintenant, ton personnage. Après ça peut être un plaisir, mais c'est vrai que voilà. Alors l'autre truc, bon, c'est vrai que moi je suis un peu taquin en plus, parce que j'aime bien pousser un peu le bouchon. Un peu comme dans le livre zéro, dans Logger Bay, parce que sinon, écrire un livre, c'est pour aller, il faut aller chercher les choses. Il faut aller provoquer un peu le lecteur pour qu'il dise, ouais, tout ça. Voilà, s'il referme le bouquin, c'est raté. Mais si on vient un peu le percuter, je trouve ça intéressant. Et donc, le focus, en plus de ça, dans des arcs, on joue le passé d'une histoire qu'on connaît déjà. Alors, j'en ai bien, genre. Alors, déjà, je joue pas mon perso, et puis en plus de ça, je sais comment ça va se passer. Et ben oui, parce que le jeu de rôle. Et ça, je pense que c'est quand même assez intéressant quand on s'y penche un petit peu, c'est que le système du suspense, c'est-à-dire ne pas savoir ce qui va se passer, c'est souvent le moteur principal. Or, bon, alors Ben, lui, il connaît bien le cinéma et tout ça, il pourra en parler, mais il y a bien d'autres moteurs pour créer une histoire intéressante. C'est-à-dire, même quand on sait ce qui va se passer, ça va être autre chose. Ça va être l'appréhension de savoir, oui, on sait qu'à un moment donné, il va se passer un truc grave, mais comment on va en arriver là? Ou se concentrer sur la personnalité, sur les émotions, et pas sur l'action. Bon, enfin bon, après là, je pourrais partir dans un freestyle assez long sur tous ces sujets, parce que moi, c'est, pour moi, c'est un travail que je fais depuis des années maintenant. Enfin voilà, donc. Alors après, évidemment, il faut pouvoir que. Il faudrait que chacun puisse se l'approprier. Alors c'est aussi notre travail avec la communauté sur le forum de recueillir les témoignages de chacun. Pour notamment, alors il y a une partie quand même du livre actuel qui est dédiée à ces aides de jeu, comment adapter, comment intégrer des personnages qui existent déjà, parce que c'est vrai que c'est galère. On a les persos, ça fait 3 ans, les gars ils jouent à Esteren, et ils disent, bah bon, on est arrivé avec notre campagne, on nous explique qu'il faut que ça soit un arc qu'on n'a pas forcément choisi, comment on fait, etc. Donc on a essayé quand même de proposer des outils pour que les gens puissent quand même intégrer ça. Donc voilà, alors après, je ne sais pas si vous avez une question particulière ou si le public, ma foi restreint, mais sympathique, a une question à poser.
Bah, t'es pas.
Voilà.
Il y a une démo à 14h.
Hein ? T'as une démo ? Bah, vas-y, décale-toi. Joue.
Oui, en fait, c'est une méthode plutôt. C'est quelque chose qui n'est pas spécifique à Esteren, qui peut s'adapter à n'importe quel jeu de rôle et se jouer dans n'importe quel jeu de rôle pour peu que le maître de jeu, que les joueurs aient compris cette méthode.
Ouais. Merci. Voilà. Effectivement, c'est vrai que c'est pas propre au jeu de rôle des ondes d'Esteren, c'est propre à ma façon d'avoir présenté les choses à l'écrire. Maintenant, c'est vrai, d'ailleurs, on a des gars sur le forum qui ont dit, bon, ça a l'air intéressant, votre affaire, alors je n'utiliserai pas la campagne et tout ça, mais le système, je vais l'utiliser pour d'autres jeux. Bah pourquoi pas, oui, parce que, après, c'est une façon de jouer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a aussi un choix là qui est fait par les joueurs et le meneur, à quoi on va s'intéresser dans un scénario de jeu de rôle. Et c'est vrai que, avec les arcs narratifs, c'est-à-dire prendre le temps de savoir quelle est la problématique de son personnage, les focus où on va s'appliquer à se concentrer sur un seul personnage. On est dans un jeu qui est plus intimiste, qui est basé sur les émotions. Je veux dire, comme je disais tout à l'heure, j'ai tendance à pousser les concepts un peu loin, mais je pense que c'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai que dans le tout premier scénario de Dearg, c'est une histoire d'amour, c'est on va se concentrer pour savoir comment deux personnes, là en l'occurrence un garçon et une fille, comment ils tombent amoureux et comment il y a une rivalité qui se met en place avec le meilleur ami de l'un. On est quand même proche de la série là. Hein, enfin, je veux dire. Alors c'est vrai que les gars qui sont habitués à faire ce que moi j'adore aussi, hein, c'est-à-dire on va chasser le dragon, on va devenir les héros, on va sauver la terre, alors on n'y est pas du tout parce que pendant en fait 5 ou 6 heures, on va rentrer dans l'intimité de ces personnages. Donc c'est vrai que c'est des outils qui sont plus propices à ça. Parce que j'ai à un moment donné, si on veut faire des scènes d'action, il y a certains outils pour ça. Moi, ce que je trouve aujourd'hui, alors je me suis renseigné un petit peu, il y a des systèmes qui sont plus indépendants, les systèmes américains, Skill Fate et tout ça, qui vont un peu plus se concentrer sur l'intimité des personnages, sur la narration, plutôt que sur l'action ou, on va dire, oui, plus le registre de l'action, là on est plus sur le drame, sur parfois la comédie, parce que ça peut être assez drôle. Et voilà. Voilà. Mais effectivement, on peut utiliser pour toutes sortes de jeux.
Il y a quelque chose qu'on associe généralement au roleplay et qu'on dissocie du système, justement, dans beaucoup de jeux. Est-ce que là, la perception que j'en ai, c'est que c'est plus une méthode qu'un système? Que vraiment le système de jeu.
Alors effectivement, c'est les fameuses écoles dans le jeu de rôle. Oui, moi je fais du roleplay, les règles, j'ai pas que ça à faire, etc. Moi-même, je suis comme ça. Hein, c'est-à-dire que le système des ondes d'Esteren est très court, synthétique. C'est le simple résumé, c'est que pour un jeu médiéval, on est sur un système de combat qui tient sur 3 pages. Là, les habitués de Donjons et Dragons, ils disent ah, c'est un peu court. Et je dis ouais, mais déjà, moi je trouve ça beaucoup 3 pages, si tu veux, parce qu'il y a tout le reste aussi à traiter. Un jeu de société, c'est 5 ou 6 pages de règles. Là, on a déjà 3 pages. Ah oui, mais le roleplay, moi, j'ai pas besoin qu'on m'explique comment on fait, etc. Alors, très bien, hein, très bien. Mais je pense que ça, c'est valable pour les meneurs qui ont quand même de la bouteille. Hein, je pense qu'à un moment donné, on a quand même besoin, au début, d'être orienté vers quelque chose. Ça peut être un exemple, ça peut être une base sur laquelle on va bricoler. Mais pour moi, le système de jeu, ça a une vraie importance. on est quand même sur un jeu de rôle. Pourtant, Dieu sait qu'avec Esteren, on essaye de développer le côté un peu artistico, voilà, hein, que ce soit à travers des illustrations ou des textes qui sont soignés. Mais on est quand même sur une expérience de jeu. Et ça doit tourner. Et ça doit être un plaisir. Et c'est vrai que moi, je pense que c'est intéressant de proposer des mécaniques de jeu qui améliorent l'expérience. Alors évidemment, si on peut s'en affranchir, c'est-à-dire profiter, comme tu dis, du concept, hein, on va dire, sans être retardé par « attends, je regarde, parce que là, je me rappelle plus ce que ça veut dire le second rôle ou le figurant », mais ça, c'est normal, c'est comme tout au début. Je pense qu'à un moment donné, quand là, Ben faisait des scénarios d'initiation, il y a toujours un moment de rodage. Et effectivement, sur les arcs narratifs, on arrive quand même avec... on redistribue pas mal de choses. Il n'y a plus le meneur et les joueurs, il y a le meneur, le premier rôle, les seconds rôles, les figurants. Et tout ça, il faut intégrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, il faut l'expliquer. Et pour moi, ça doit être un système. Tout comme les arcs narratifs, comment on en crée? On crée bien des personnages... Et les...
C'est une structure.
C'est une structure, mais ça fait quand même partie du système de jeu. Je veux dire, la création de personnages, il y en a qui pourraient te dire « Oui, mais moi, je fais ça comme ça, à la volée. » Bon, peut-être. Peut-être. Hein. Il y a même des jeux de rôle qui visent à ça. Mais généralement, c'est une partie du système où on va s'appliquer à ce que ce soit assez structuré, avec des règles à suivre, des tableaux, etc. Donc je pense que ça, c'est un vrai choix en tant que concepteur. C'est pas qu'il faut s'affranchir de ce qui a été fait jusque-là. Mais je veux dire, qui a dit que le plus gros chapitre, ça devait être forcément le combat et autre chose? Non, on fait ce qu'on veut. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un... Alors après, il ne faut pas que ça soit envahissant, je vous l'accord. Donc là, il y a aussi l'exposition de nouveaux concepts, donc forcément, on est assez pédagogique. Donc oui, ça prend un peu de temps, ça prend un peu de place, mais en même temps, c'est ce qui crée la fraîcheur de l'expérience. Enfin, j'espère.
La même chose que toi.
Moi, l'idée là-dedans, c'était pas vraiment d'opposer le système de jeu. Pour moi, un système de jeu, il est un bon système de jeu, il est simple, il se fait oublier.
Exactement.
Et à la limite, je dirais le système de jeu avec les compétences, avec tout ça, c'est beaucoup pour faire du bruit avec les dés, mettre un peu la pression aux joueurs et les pousser à jouer leur perso et les pousser à décrire. Pour moi, dans ce que tu as dit, ce que je vois, c'est une nouvelle manière d'organiser les parties. Et qui est intéressante en tant que telle. Parce que justement, ça peut s'appliquer à n'importe quel
oui,
jeu, et ça peut s'appliquer à n'importe quel système, et c'est quelque chose qui va permettre à un maître de jeu et à un groupe, peut-être de souder le groupe, peut-être de faire des choses nouvelles, et d'arriver à une nouvelle vision du jeu aussi.
Effectivement. Non, mais effectivement, je vois ce que tu veux dire. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, hein, c'est que. Il y a des livres de jeux de rôle qui le font, mais plus tous maintenant, et même nous on ne l'a pas fait, et à y penser je pense que c'est une erreur. C'est que par exemple, dans un livre de jeux de rôle, on ne va pas forcément expliquer comment ça se passe. Une partie concrètement, parce qu'on estime que le lecteur sait. C'est-à-dire comment ça se passe, concret. Hein. On se met autour de la table, il y en a un qui fait le meneur, les joueurs, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils font, quels sont leurs champs d'action. Là, dans des argues, et pour le système d'arc narratif et des focus, il y a plusieurs pages où on explique qu'est-ce que vous allez faire pour la partie. Dans vraiment les principes de base. Et effectivement, ça change un peu le principe de base. Parce que dans un focus, ce qui se passe, c'est que le meneur et les seconds rôles, c'est-à-dire les joueurs, mais qui ne jouent pas leur propre personnage, vont être en aparté, pendant que le premier rôle, c'est-à-dire l'un des joueurs qui va jouer le premier rôle, lui va sortir de la pièce. Et pendant ce temps-là, le second rôle, le meneur, va les briefer. Comme un metteur en scène qui brief, qui va te dire, toi, à un moment donné, dans la scène, machin, tu lui mets la pression, mais en mode, tu vas fort. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans les parties, le joueur, au début, il est un peu timoré. Ouais, vas-y, il faut que tu fasses la mission, c'est important. Et le meneur, lui dit, vas-y, mets la pression. Et il se dit, parce qu'il n'ose pas trop au début, il a pas, c'est étonnant, parce qu'on n'est pas bien habitué. Est-ce que tu vas changer de rôle? Donc, tu vas jouer tour à tour un adversaire ou un allié. Et les figurants, par exemple, c'est une autre chose, ça c'est des personnages à la volée. Le meneur, il ne prévient même pas. Bon, alors vous arrivez donc dans l'auberge, c'est vas-y, tu joues l'aubergiste. Et donc au début, puis après, tu commences à... Alors, les joueurs, des fois, ils partent un peu dans leur truc, mais non, le scénario est fait que ces personnages n'ont pas une incidence grave. Il n'y a pas de scène clé. Ça aussi, c'est une autre chose qui a été développée, c'est les scènes clés. C'est des points qui doivent se passer. C'est ça que le meneur va expliquer au début. Dans l'histoire, à un moment donné, toi, il y a une scène clé. Ça, il faut que tu le dises, il faut que tu le fasses. Tu as une fiche de rôle. Et donc, c'est vrai qu'après, il y a... Alors, quand tu disais roleplay, moi, ça me fait plaisir. Parce que pour moi, cette notion, c'est très important. C'est mon plaisir dans le jeu de rôle. C'est l'aspect théâtral. Et oui, là, il y a quelque chose de ça. C'est que les joueurs et les joueuses, ils vont prendre plaisir à interpréter. Ils savent très bien qu'à la fin du scénario, à un moment donné, ils vont se retourner contre leurs potes. Et c'est eux qui vont faire la trahison. Et ils attendent ce moment pour le jouer. Le pote, lui, il le prépare. Et entre eux, d'ailleurs, c'est assez drôle, parce que je les ai testés beaucoup. Des fois, on voit comment les joueurs, entre eux, ils envoient des pistes à l'avance pour préparer le terrain. Ou genre... Et le joueur, des fois, le premier rôle, il le sait parfois que son pote, il va le trahir. Mais c'est ça la tragédie. C'est qu'on sait que ça va arriver. Il dit, tu peux pas faire ça. Il dit, eh, si, tout ça. Et puis là, c'est grandes envolées et tout ça. Non, mais voilà, et on se concentre là-dessus. C'est vrai qu'on est... Et forcément, on aime ou on n'aime pas. Ça, c'est clairement... Nous, la chance qu'on a aujourd'hui avec Maison Mystérienne, c'est vrai qu'on est soutenu par une communauté quand même dans un dynamisme assez fort. On se permet d'aller au bout de notre démarche sans concession sur notre ligne éditoriale, sur notre partie pré-artistique. Évidemment, il s'agit d'accompagner les gens. C'est le sens de mon intervention ici. C'est le sens du forum où tous les meneurs peuvent venir. Et d'ailleurs, les débats sont animés, sont nombreux, pour pouvoir les accompagner, nous, là-dedans. Mais on a envie de leur faire découvrir autre chose. Et c'est vrai que, voilà, hein, c'est assez... finalement, ça peut devenir assez fort, comme on peut se dire, non, c'est pas trop pour moi. Et c'est une façon de jouer, effectivement. Véronique, je te sens... Je sens que tu voulais dire quelque chose.
Non, j'avais une question. Comment t'es venue l'idée de ce nouveau concept, justement, sur c'est quelque chose qui t'a manqué en tant que joueur?
Ah ben oui, c'est ce que je te disais. C'est né des apartés avec les joueurs. T'avais toujours... C'est vraiment ça, hein. C'est-à-dire que le joueur, il écrit son historique, tout le monde s'en fout, mais lui, il a quand même passé quelques temps à l'écrire. Et c'est vrai qu'en tant que meneur, on était... n'y a rien qui est proposé pour traiter ça. Là, moi, le parti, c'est de dire, derrière, on va utiliser non pas un historique du gars qui se prend la tête, c'est qu'on va utiliser les historiques de tout le monde, et on va passer les uns après les autres, tout le monde aura sa partie. Et c'est vrai qu'il y a ce côté où, pendant une partie, c'est ton pote, donc donne-toi pour lui, mais à la prochaine, ça sera toi. Donc il y a cette idée aussi d'échange entre les joueurs. Mais pour moi, c'est vraiment ça, parce que c'est vrai que dans une campagne, alors les gens, moi j'aime bien parce que des fois ils me disent non mais moi de toute façon ton truc ça a l'air sympa mais je vais les réécrire. Je dis t'inquiète pas, moi j'ai jamais joué les scénarios du commerce. Hein. Donc, j'en ai acheté beaucoup mais je découpais là-dedans mais à l'arrache. Mais c'est normal, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Le truc c'est que c'est vrai que c'est juste de leur dire regardez par là ce qu'on peut faire avec ça. Et ça c'est super intéressant. Parce que le principe c'est quoi? C'est que quand les joueurs ils sont impliqués, c'est-à-dire que quand ils sont impliqués, pas, ils ne font pas l'illusion qu'ils s'intéressent à l'histoire du meneur. Oui, bien sûr, mon roi, je vais faire cette mission, bien sûr, etc. Parce que s'ils ne la font pas, la partie s'arrête. Donc, c'est un peu compliqué. Ouais. Là, c'est de dire, alors toi, quelle est ton histoire? Et on va construire quelque chose autour de ça. Alors, on me dit, oui, mais dans la campagne d'Erg, il y a bien une histoire qui est écrite. C'est ça le paradoxe. Bah, évidemment, parce que nous, on doit quand même proposer une histoire. Donc, il y a une contrainte. C'est de dire, il y a une histoire qui est écrite, et pour qu'elle fonctionne, il y a quatre arcs narratifs, et chaque joueur va en choisir un. C'est ça votre liberté. C'est de choisir notamment qui va prendre l'arc narratif de l'amour. S'il n'y en a aucun qui veut prendre cet arc narratif, c'est compliqué. Mais autant que s'il n'y en a aucun dans une partie de jeu de rôle qui fait quelque chose de bloquant pour la partie. Mais c'est vrai que voilà, il y a cette contrainte-là. Et après, moi, ce que j'espère, ce que j'attends, c'est, d'ailleurs, ça a commencé un petit peu, c'est que les meneurs arrivent avec le système d'arc narratif proposer leur propre campagne. Évidemment, le must, ça soit qu'à chaque table, les joueurs créent leurs propres arcs avec le meneur et que le meneur ensuite écrive des histoires, parce que quand les joueurs amènent les histoires, l'histoire elle est toute écrite. Hein. Oui, donc j'ai mon meilleur pote qui m'a trahi ou j'étais le fils de machin et puis en fait, voilà. Donc l'aparté, ça va dire, je me renseigne sur... mais en fait, c'est pas du tout la quête. Qui se renseigne sur son histoire. Mais là, le meneur, il va juste ramasser ce que le joueur lui propose et il va écrire. Et puis, c'est parti. Et donc, voilà, c'est parti de ça. Puis après, les playtests, il faut dire que les joueurs ont énormément apporté au fur et à mesure des sessions, parce qu'au début, c'était quand même bien foireux sur pas mal de choses. Ah, forcément, notamment le système des arcs était au début basé sur les voix, pour ceux qui connaissent un peu le système des Zone d'Estérien. C'est-à-dire qu'il y avait... C'était pas les arcs narratifs, c'était vraiment en fait des sortes... Parce que là, le terme arc narratif est venu plus tard, mais en gros, il y avait... une sorte d'arc qui était lié à la combativité, une autre à la créativité, et donc c'était aussi lié aux voix, mais en fait c'était foireux parce que ça n'allait pas pour plein de raisons. Et puis on a avancé, et voilà, et après on en est venu à ça. Il parle pas beaucoup, mais il dessine.
Voilà, une question pour Chris. Donc, as-tu participé, as-tu illustré justement sur cette campagne
je suis principalement sur des paysages. Je fais principalement que des paysages, en fait. Donc j'essaie de faire aussi autour de ça un peu de personnage de côté pour essayer de
monter le niveau.
Monter le niveau, d'avoir plus d'expérience en tout ce qui tourne autour de l'illustration. À côté de ça, j'ai un métier qui me prend beaucoup de temps, j'ai peu de temps le soir pour me mettre dessus. C'est de me concentrer comme le plus possible sur les illustrations et je passe beaucoup de temps en fait à la langue dessus.
Tu as fait combien d'illustrations pour cette campagne? Est-ce que c'est un peu à peu près la proportion?
Je ne les compte pas trop, mais ça varie de 2 à 4 illustrations, ou peut-être un peu plus, je ne sais pas trop. Je ne compte pas, franchement.
Parce que, en fait, Chris, lui, parce que moi j'assure la direction artistique, donc c'est vrai que les illustrateurs eux-mêmes ne savent pas trop dans quel livre ils sont publiés. On maintient une ambiance de mystère. Alors, parce qu'après, disons que c'est des détails. Comme il l'a décrit, on n'a pas beaucoup de temps, donc on va à l'essentiel. C'est-à-dire, écoute, j'ai besoin d'un décor avec de la neige. Mange-toi, parce que là, on est un peu à la bourre, il y a la communauté qui gueule derrière. D'ailleurs, t'en es où sur le plan? Alors, si on devait faire le point.
Oui, bah tiens, on peut faire le pause si tu veux.
Ah, un peu après. Donc voilà, non, mais là sur Dergue notamment, il a. Parce que Dergue aussi inclut le fameux bac à sable qui a bien aimé des rôlistes, c'est-à-dire l'environnement dans lequel on va décrire un petit peu le village, en l'occurrence de Dergue, où va se avoir lieu, c'est le décor. Et c'est vrai que Chris a fait pas mal d'illustrations pour Dergue, le village en lui-même. Il a fait le nouvel écran. Et là, en ce moment, il est en train de bosser sur une grosse carte, parce qu'on reprend toute la carte de la péninsule. Et il y a un beau défi, là, parce que c'est je lui ai dit, il ne faut pas se moquer des gens, la crise.
Moi, c'est beaucoup de temps sur...
Non, mais après, c'est vrai que ce qui nous a fait plaisir, c'est que pour la version américaine des Ondes d'Estérène, on a vraiment été salués pour la dimension graphique. Alors, je pense que c'est... Bon, alors, évidemment, c'est notre boulot. Mais je pense que c'est aussi la façon dont les Européens et les Français font des jeux de rôle. Parce qu'on a une façon... c'est assez différent. Je pense que pour eux, c'est assez exotique. Donc, je sais pas, ils ont dû s'imaginer à Paris. Je sais pas, ils auraient bien aimé. Non, mais parce que c'est vrai qu'on regarde les livres de Donjons Dragons, très propre, très carré. Hein. Je revoyais là récemment des vieux bouquins de la 4e édition. Malheureusement qu'il a disparu, puisque la 4e édition de Donjons Dragons n'existe plus. Les livres, c'est vrai, très beau, hein, mais très sobre. Là, il y a Chris, il travaille à l'ancienne. Hein. C'est-à-dire que c'est les pinceaux, c'est tout ça. Et ça crée un grain, il y a quelque chose... C'est important parce que toute cette ambiance romantique, toutes ces histoires centrées sur les émotions, pour moi, ça doit être cohérent avec les illustrations. Et il faut de la sensibilité... Et c'est vrai que Chris, lui, il a son boulot, personne ne vit du jeu de rôle, tout le monde le sait, là. Mais on n'est pas dans la quantité, c'est la qualité. Et je préfère qu'on prenne le temps, même si c'est parfois difficile à comprendre, on pourrait dire, il faut sortir le bouquin, il faut sortir le bouquin. Mais bon, en même temps, nous, notre plus grande satisfaction, c'est d'abord d'être quand même relativement content de ce qu'on a fait, d'avoir été un peu le plus loin possible dans nos limites, et puis de voir aussi le plaisir des gens quand il fallait être libre. Hein. C'est pour ça que notre communauté, bon, ça est assez extraordinaire, parce qu'eux, ils attendent, ils nous suivent. Souvent, ils attendent beaucoup, parce qu'on met du temps. Mais bon, c'est la réalité du processus créatif. Mais c'est vrai que sans les illustrations, tout ce que je vous ai raconté sur les arts narratifs, tout le monde, personne ne lirait. Parce que c'est vrai que c'est important de mettre en image, en visuel. Et disons qu'avec des belles images, on peut faire passer la pilule sur des textes un peu pointus. Et c'est vrai, hein, je pense que le jeu de rôle, c'est quand même des bouquins qui font plusieurs centaines de pages. Pour les gens qui ne connaissent pas, même quand je leur dis, tu sais, le système dans le prologue, c'est 6 pages. Oh là là, 6 pages de règles et tout ça. Bah oui, mais moi, mon jeu, Loup-garou de Tirtueux, c'est une demi-page. Ben bah oui, mais c'est vrai, ils n'ont pas tort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pourtant, 6 pages pour un système de règles de jeu de rôle, vous-même, vous en conviendrez, c'est déjà beaucoup. Et c'est vrai que les illustrations, ça, c'est très important. Bravo, Christophe, tu déchires.
Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette campagne d'IA?
C'est au complet.
Donc, s'il y a des questions qui viennent dans l'après-midi,
et ben voilà.
Sachez que vous avez deux stands, donc des ombres lesterennes qui exposent l'espace jeu de rôle. Donc, avec Chris, si vous voulez vous faire dédicacer, illustrer, c'est le moment. Et il y aura aussi une
démonstration. Pas j'avais bien, ok. Ouais.
N'hésitez pas à aller voir,
on a 5 minutes, Véronique.
Le dernier mot.
Ouais, j'ai pas arrêté de parler. Là. Bon, sinon, vous allez bien, comment ça se passe? Non, bah voilà, bah merci Véronique pour l'invitation, c'est toujours un plaisir. Là, moi, je vais aller déjeuner parce que j'ai un petit creux.
Ouais, mais on a 5 minutes.
Ouais. Non, ben merci pour votre attention. À bientôt. Bon.
Tu as trouvé une place à
l'époque? Ouais, mais je suis pas garé.
On est bien, on est pas bien.
Allez, on va dire, on bouge. Est-ce qu'on doit débarrasser le plancher là?
Hein?
Ça va, Véronique? Excuse-moi.
Oh, mais surpris.